éponge pour l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Merci Guillaume, il est 9h10 à Port-au-Prince. Quelle solution politique à la crise institutionnelle en Haïti après la mort de Jovenel Moïse? On va se pencher aujourd'hui sur cette question à l'heure où l'on se demande encore qui se trouve derrière l'assassinat du président. Seule la communauté internationale peut nous aider à trouver une solution, nous dira l'ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné. Une centaine d'arrestations, un mort au moins, et les autorités sur les dents à Cuba. Les suites des manifestations anti-régime du week-end font toujours la une. Et puis, le journal de la première, Benoît Ferrand, la menace présidentielle semble-t-il fonctionne, hein. Les centres de vaccination contre le Covid dans les Antilles font le plein.
Eh oui, les annonces d'Emmanuel Macron, passe sanitaire obligatoire et surtout obligatoire pour voyager, ont eu le même effet partout et notamment, nous le verrons, au centre de vaccination de l'aéroport Paul Caraïbes en Guadeloupe.
À tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
C'était donc il y a une semaine, tout juste mercredi dernier à 7h, les Haïtiens se réveillaient avec cette nouvelle sonnée abasourdie, à peine croyable. Le président Jovenel Moïse venait d'être assassiné chez lui, sur les hauteurs de Port-au-Prince.
La première chose, c'est que pratique politique. Et en Haïti, nous n'avons pas l'habitude d'assassiner le président.
Et depuis, c'est la même question. Comment cela a-t-il été possible? Celui que l'on entend là, c'est Liné Balthazar, le président du PHT, qui a la formation politique de Jovenel Moïse. Il était hier l'invité de la radio Magic Nine. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Liné Balthazar, dîne écarté. Aucune piste, Romain, au sujet des commanditaires de cet assassinat.
Oui, le Nouvelliste revient sur cette interview que Liné Balthazar a donc concédée à la radio Magic 9, entretien au cours duquel le président du parti haïtien Tête Calée, le PHTK, dit qu'il n'écarte pas la possibilité que ce crime provienne de sa propre famille politique. Liné Balthazar se dit confiant pour que la justice et la police haïtienne, qui disposent de nombreux éléments, parviennent à débusquer ces fameux commanditaires. Sa famille politique, explique-t-il, n'est pas à l'abri de tout soupçons, tout comme les autres formations politiques. Et Liné Balthazar met en garde, je ne veux pas qu'il y ait des interférences politiques, une tendance à faire une appropriation politique du cadavre de Jovenel Moïse, favorisant à des individus de régler leurs affaires personnelles et politiques, avant d'ajouter, si on ne parvient pas à faire la lumière sur ce dossier, aucun autre président ne sera en sécurité dans le pays.
Mais comment un commando a-t-il pu si facilement pénétrer à l'intérieur de la résidence privée de Jovenel Moïse, sans accroc ni difficulté? Ce sont des questions que se pose aussi Jean-Gabriel Fortuné, ancien maire des Cayes, ancien sénateur du département du Sud. Il était un proche conseiller et ami du président assassiné. Marie Normand l'a joint hier soir par téléphone.
Comment peut-on expliquer que des mercenaires arrivent à pénétrer jusqu'à la chambre du président de la République? Parce qu'on doit traverser au moins 4 postes de sécurité. Je n'arrive pas à comprendre comment on puisse avoir une telle complicité de tous ces services en même temps, qu'il n'y a pas eu de riposte, il n'y a pas eu d'échange de tir. Donc ça a été un vaste complot. Les mercenaires étaient bien accompagnés.
Et comment expliquer qu'à l'heure où nous parlons, ces responsables de la sécurité du président soient libres?
Et tout le monde se pose cette question. Dès qu'on a appris maintenant l'assassinat du président, on aurait dû procéder à l'arrestation immédiate des responsables de sécurité. 7 jours après, ça n'a pas été fait. Les institutions haïtiennes sont totalement dysfonctionnelles, que ce soit la police, que ce soit la justice. Si la communauté internationale ne s'implique pas en termes d'enquête, les Américains, les Colombiens, les Français, les Canadiens, on peut se désespérer. Fort heureusement, ils sont là. On ne peut pas compter sur la justice haïtienne, sur la police haïtienne.
Jean-Gabriel Fortuné, en 2018, vous aviez été mandaté par Jovenel Moïse pour dialoguer avec l'opposition en vue de trouver une sortie de crise. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, vous aussi, à ce dialogue inter-haïtien que beaucoup appellent de leur vœu?
Et cette étape est révolue. Un dialogue inter-haïtien pour arriver à une sortie de crise, pour moi, c'est révolu. C'est plus possible. C'est plus possible. Les gens ne peuvent même pas se parler. Pour le moment, seule la communauté internationale à travers l'ONU a la capacité maintenant de trouver une sorte de solution à cette crise. Ils doivent s'impliquer davantage et les Américains doivent mettre la pression pour que les acteurs politiques haïtiens, les jeunes de la société civile puissent finalement se rencontrer. sans les Américains, sans les Français, sans les Canadiens, ce ne sera pas possible un dialogue, malheureusement. Donc, la transition s'impose avec un agenda qui doit être imposé par les Nations Unies, malheureusement.
Est-ce qu'il faut, selon vous, organiser des élections au plus tôt, dès le mois de septembre, comme l'ont demandé les États-Unis?
Mais pour le moment, c'est impossible. On ne peut pas avoir des élections dans ces conditions. Pour le moment, on ne peut pas compter sur les unités de la police nationale. Il n'y a pas de président de la République, il n'y a pas de président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de président de la Cour de cassation. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Premier ministre, c'est le Premier ministre par défaut. Il n'y a plus d'État. C'est l'effondrement total de l'État. Et la société civile haïtienne est un délitement. Donc, maintenant, sur qui compter aujourd'hui? On doit compter avec les Nations Unies, on doit compter avec l'OEA, on doit compter avec les États-Unis, la France et le Canada. On n'a pas le choix.
Pourtant, Jean-Gabriel Fortuné, les Nations Unies n'ont pas laissé que de bons souvenirs en Haïti.
Ok, on doit avoir le courage de dire que la communauté internationale a également échoué en Haïti. Et nous sommes à quelques kilomètres des États-Unis. Donc les États-Unis ont laissé faire parfois l'approche même des Nations Unies, laisse à désirer. On a dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en Haïti, mais maintenant, on n'a pas eu de résultats. Ils doivent changer de logiciel, ils doivent changer d'interlocuteur. Trop souvent, ils ont les mêmes interlocuteurs. Mais ça n'a pas marché, et jusqu'à ce qu'on arrive, malheureusement, à ce drame, à cette tragédie.
Quelle est la priorité, selon vous, aujourd'hui, pour les Haïtiens?
La priorité pour nous, aujourd'hui, c'est la sécurité. Mais on ne peut pas jouer d'un minimum de sécurité sans l'intervention des Nations Unies ou des Américains. Ce n'est pas avec l'assassinat du président, bien avant. C'est le point culminant, l'assassinat du président. Mais bien avant, on n'était pas en sécurité.
Vous appelez donc, Jean-Gabriel Fortuné, à un nouveau déploiement de casques bleus onusiens en Haïti?
Inéluctablement, il nous faut cette intervention, malheureusement. On n'a pas le choix. Et il se fait tard. Parce que les gangs armés contrôlent toute la capitale. Et l'État haïtien, avant l'assassinat, ne pouvait pas, pour toutes sortes de raisons, faire face à ces gangs armés. Les Nations Unies étaient bien au courant, les Américains étaient bien au courant, également les Français et les Canadiens. Nous sommes un pays en danger, nos voisins ont la responsabilité de venir en aide. C'est une responsabilité d'abord morale. Nous sommes en danger, le pays est en danger.
Il ne s'agirait pas d'un énorme retour en arrière?
Malheureusement, c'est notre histoire. Il faut l'assumer. Nous l'assumons. Il faut maintenant repenser les institutions politiques haïtiennes, les consolider, et puis après, peut-être, les Nations Unies, les Américains, les Français, maintenant, pourront se dire un jour qu'ils ont fait quelque chose pour Haïti. Ils ont un devoir moral d'intervenir. Et ils doivent intervenir.
L'ancien sénateur Jean-Gabriel Fortuné avec Marie Normand. Aujourd'hui, les États-Unis disent toujours analyser cette demande des autorités haïtiennes d'envoyer des militaires sur place pour sécuriser le pays. En attendant, Washington, par la voix de son secrétaire d'État Anthony Blinken, hier a rappelé une nouvelle fois que les dirigeants politiques haïtiens devaient se rassembler le pays autour, je cite, d'une vision inclusive, pacifique et sûre pour paver la voie à la tenue d'élections dès cette année. Romain Lemaresquier, ça aussi c'est une question. Haïti sera-t-il en mesure de sortir de cette crise politique ouverte donc après l'assassinat de Jovenel Moïse?
Eh bien si, comme le dit le National ce mercredi, il existe littéralement une pluie de propositions pour sortir de cette crise, ce n'est pas pour autant qu'elles vont être écoutées. Car si d'un côté les partis politiques d'opposition et le PHTK sont parvenus à un accord pour que Joseph Lambert, président d'un Sénat qui ne compte plus qu'une dizaine d'élus, occupe le poste de président par intérim et Ariel Henry occupe celui de Premier ministre, une frange de la société civile et d'autres structures politiques s'y opposent.
Et justement Romain, que proposent ces autres partis et organisations?
Eh bien ces derniers préconisent un consensus large et inclusif pour trouver une solution, alors que d'autres demandent un conseil de gouvernement avec trois personnalités crédibles de la société d'État et le national. Les intérêts individuels semblent primer sur le collectif, se lamente le quotidien, un constat partagé également par le Nouvelliste pour qui le pays est à la croisée des chemins, en dehors du refus ou de l'incapacité des Haïtiens, de trouver un consensus pour diriger le pays. Le champ est libre à la communauté internationale pour imposer sa solution, estime le quotidien, qui appelle les différents acteurs pour que prime pour une fois l'intérêt collectif sur les intérêts de chapelle.
D'après nos confrères du site en ligne Alter Press en Romain, une conférence politique en tout cas doit avoir lieu demain, jeudi, à l'initiative de la Commission pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise. On suivra cela, évidemment, tout comme les annonces au sujet. sujet des funérailles de Jovenel Moïse. Le Premier ministre par intérim Claude Joseph a procédé à l'installation hier du comité chargé de les organiser. Si les États-Unis sont en tout cas si soucieux de la situation haïtienne, c'est aussi par crainte d'une arrivée massive d'Haïtiens à leurs frontières. Une inquiétude qui vaut également après les événements à Cuba le week-end dernier. Le secrétaire américain à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas a eu un message très clair hier. Écoutez.
Nous nous engageons à soutenir le gouvernement haïtien dans sa quête de justice dans cette affaire et nous affirmons le soutien des États-Unis au peuple haïtien. Nous sommes également solidaires du peuple cubain et de ses appels à se libérer de la répression et des souffrances économiques causées par le régime autoritaire de Cuba. Les gardes-côtes ainsi que nos partenaires étatiques, locaux et fédéraux surveillent toute activité qui pourrait indiquer une augmentation de la migration maritime dangereuse et irrégulière dans le détroit de Floride, y compris les départs de navires non autorisés de Floride vers Cuba. Le moment n'est jamais propice pour tenter une migration par la mer. Permettez-moi d'être clair, si vous prenez la mer, vous ne viendrez pas aux États-Unis.
Alejandro Mayorkas, le ministre de la Sécurité intérieure à Cuba. Romain, il y a toujours des manifestations contre le régime castriste. Les autorités confirment au moins une victime. Il y a aussi eu plus d'une centaine d'arrestations, en croire la presse étrangère.
Oui, des informations qui font la une d'El Nuevo Herald, un quotidien américain en langue espagnole très proche de la diaspora cubaine. Alors selon ce journal, ces chiffres auraient été annoncés par des médias officiels cubains. La première victime de la répression des autorités est un homme de 36 ans, décédé à Arroyo Naranjo, une des 15 municipalités de La Havane, où les forces de l'ordre s'étaient déployées en nombre lundi dernier. Hier, les Cubains sont à nouveau descendus dans les rues de certaines localités pour exprimer leur ras-le-bol, en particulier en province, car La Havane est littéralement bouclée par les forces de l'ordre, explique El Nuevo Herald. Des rassemblements qui se sont tenus malgré la coupure du réseau Internet, principal moyen utilisé pour appeler à manifester, rappelle le quotidien colombien La Repubblica.
D'ailleurs, Romain, il y a deux jours, le président américain Joe Biden a appelé les autorités cubaines à rétablir les connexions Internet. Et maintenant, c'est au tour du gouverneur de l'État de Floride de faire des propositions.
Oui, Ron DeSantis, gouverneur républicain de l'État de Floride, appelle les compagnies américaines basées dans son État à mettre en place des solutions pour que les Cubains puissent se connecter et pour que le monde sache ce qu'il se passe à Cuba. C'est ce qu'il explique dans le Tampa Bay Times. Selon lui, ces entreprises sont à même de proposer des connexions par satellite, un flux que les autorités cubaines ne peuvent couper. Un gouverneur qui plaide pour que la Maison-Blanche conserve une ligne dure face au régime cubain. Un autre thème qui alimente aujourd'hui la presse américaine.
Car pour l'heure, la position de la Maison-Blanche est critiquée par tous, Romain.
Et oui, Joe Biden est pris en étau, explique ce matin le Washington Post dans un article d'analyse. D'un côté, il y a l'aile gauche du Parti démocrate qui appelle la Maison-Blanche à détricoter les mesures prises par Donald Trump à l'encontre de Cuba. Et d'un autre côté, il y a le Parti républicain qui appelle Joe Biden à ne pas plier, ne pas négocier avec un régime dictatorial et corrompu. Des républicains qui n'hésitent d'ailleurs pas à qualifier le président de faible. La Maison-Blanche qui ne comptait pas prendre position, explique le Washington Post, a dû changer son fusil d'épaule face à ce qui pourrait être un soulèvement historique, selon le quotidien. Biden est sur une corde raide, estime le Washington Post, et à l'heure actuelle, les conseillers du président ne savent toujours pas comment gérer une situation qu'ils n'avaient pas anticipée.
Sur le plan intérieur, merci beaucoup Romain Lemaresquier pour la presse. Sur le plan intérieur, disais-je, c'est sur le sujet du droit de vote que Joe Biden s'est attardé hier. Il était à Philadelphie et dans son discours, il a dénoncé les assauts de ses rivaux républicains. 17 États, en effet, ont modifié cette année leurs lois électorales, restreignant l'accès aux urnes, en particulier des minorités. Anne Corpé, selon Joe Biden, c'est la démocratie qui est visée.
Le droit de vote est un pilier de la démocratie américaine, entame le président, et il est attaqué. Pour contrer Donald Trump, qui continue de dénoncer des fraudes massives lors de l'élection qu'il a perdue, Joe Biden lance.
Le grand mensonge n'est rien d'autre qu'un grand mensonge. En Amérique, si tu perds, tu acceptes le résultat. Tu suis la Constitution, tu essaies encore, tu ne qualifies pas les faits de mensonges pour tenter ensuite de détruire notre héritage américain juste parce que tu es mécontent.
Le président dénonce les lois votées dans les États républicains sur la base de ce mensonge pour restreindre l'accès au vote. Il les compare aux lois ségrégationnistes. Et Joe Biden implore les élus du Congrès d'adopter un texte qui garantirait le droit de vote. Mais sans l'appui des républicains, cela sera impossible. Le président n'a qu'une option, galvaniser ses troupes et les appeler à une vigilance constante pour défendre l'accès aux urnes. Anne Corpet, Washington, RFI.
Enfin, c'est sur d'autres applaudissements que j'aimerais finir avant de retrouver nos confrères de la première. Huit longues minutes d'applaudissements, de standing ovation, c'était ce matin à Cannes, en France, au Festival international du film. Huit minutes d'applaudissements qui ont suivi la projection du film Freda de la haïtienne Jessica Généus dans la catégorie Un certain regard, un film 100% haïtien qui traite des problèmes actuels que traverse en ce moment Haïti. Jessica Généus sera notre invitée vendredi dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Pour l'heure, il est 15h26 ici à Paris.
Le journal de l'Outre-mer.
Et c'est avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour, Mickaël.
Comme en métropole, Benoît, dans les Antilles, les centres de vaccination anti-Covid sont pris d'assaut.
Eh oui, les annonces d'Emmanuel Macron, passe sanitaire obligatoire à l'entrée de tous les lieux de loisirs et de culture, et surtout obligatoire pour voyager, eh bien ces annonces ont eu le même effet partout, et notamment au centre de vaccination de l'aéroport Paul Caraïbe en Guadeloupe, ouvert ce 14 juillet et pris d'assaut. Reportage Pascal Pétrine.
10 heures au vaccinodrome de Paul Caraïbe, la queue est déjà longue, très longue, mais les candidats sont nombreux.
C'est vrai qu'on est surpris par le monde, mais nous, c'est pas en rapport avec l'annonce.
Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde.
À l'intérieur du centre, le flux est continu, mais l'organisation a le parcours bien fléché. Le commandant Lise Lamaille est en charge de la gestion du centre.
Depuis ce matin, nous n'avons pas arrêté, donc en termes de prise en compte, dès lors qu'on rentre dans le centre de vaccination. Les durées de traitement n'ont pas sensiblement augmenté, hein, on est toujours sur maximum 30 minutes. Après, c'est vrai qu'en extérieur, l'accueil est plus conséquent.
À ce moment de la journée, près de 250 injections ont déjà été réalisées, soit le quart de la capacité d'accueil du centre. Le médecin capitaine Maïlis Freiné, référente médicale.
Nous sommes proportionnés pour au moins 1000 patients jour. Donc pour le moment, ça ne nous pose pas de problème. Et en fait, s'il faut monter en puissance, on montera en puissance au besoin.
Quant aux motivations des uns et des autres, elles sont multiples.
Je travaille un peu dans le milieu professionnel de l'artistique. Il faut que je sois vacciné pour la protection de tout le monde.
Je suppose qu'on va m'imposer de le faire dans la mesure où je travaille avec un public assez large et notamment des enfants. Donc je prends un peu les devants.
Rappelons qu'à Paul Caraïbe, la vaccination s'effectue uniquement via le Pfizer et que le vaccinodrome est ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 18h.
Direction maintenant la Martinique et le report à une date ultérieure du Tour des Yoles qui aurait dû se tenir du 26 au 30 juillet prochain. Alors, on s'y attendait un petit peu, mais ça n'empêche évidemment pas la déception. Écoutez le patron de Yoles, Piedric Petitot, au micro de Pierre-Yves Honoré.
En tant que groupe, si on savait que la situation se dégradant, ça aurait été difficile de mener le projet à bien. Surtout que c'est la plus grosse manifestation sportive avec le tour cycliste en Martinique. Donc, la pointe de déception, c'est que tous les coups, ils ont attendu la manifestation, on se prépare physiquement pour le mener à bien. On a des partenaires qui nous suivent et eux qui attendent ce moment-là fort pour pouvoir communiquer auprès du public. Donc, que ce soit CTDM, EDF, eux aussi, ils sont un peu déçus. La ville du Lamantin avait déjà mis en place des choses pour nous. Donc, eux aussi, je pense que c'est au niveau des partenaires que ce sera compliqué. Et ensuite, au niveau financier pour les associations, pour poursuivre les actions menées. Parce que le tour, c'est une semaine. On vit sur le financement du tour pour pouvoir fonctionner les 51 autres semaines. Et c'est ça qui sera compliqué pour nos associations.
En Martinique, le festival de la ville de Fort-de-France a également été annulé. Bon après-midi, Mickaël, bonne fête nationale et à demain.
Merci à vous aussi, Benoît Ferrand, à vous et à toutes les équipes de la première. Ainsi se termine ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. Vous le savez, vous pouvez nous réécouter sur l'application RFI, Pure Radio et toutes les plateformes de podcast. Très bonne journée à tous et à demain sur RFI.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.